portraits de femmes de notre matrimoine de tous les continents, saison 2022-2023, préparé, réalisé et animé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. C'est tout de suite et aujourd'hui on va partir en Égypte et oui. Loin dans le temps.
Oui, aujourd'hui nous sommes sur le continent africain. D'abord bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Donc aujourd'hui nous sommes sur le continent africain et nous parlons d'une femme pharaon qui a régné très longtemps avant notre ère, au 15e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'appelle Hatshepsut, H-A-T-C-H-E-P-S-O-U-T. Hatshepsut, née en 1520 avant notre ère, est dans l'histoire de l'humanité la première femme dont on est sûr qu'elle exerça un pouvoir politique, la fonction royale, la première à avoir laissé de nombreux témoignages de son règne, et qui pour cela a jugé nécessaire de prendre les attributs masculins, parce que la féminité seule ne pouvait justifier l'exercice du pouvoir pharaonique. Ce n'est qu'en début du 19e siècle de notre ère, quand le français Jean-François Champollion, le père de l'égyptologie, parvint à déchiffrer les hiéroglyphes inscrits sur son temple funéraire, qu'on a pu reconstituer l'histoire d'Hatshepsut, oubliée depuis des millénaires. Hatshepsut est la fille du roi Thoutmôsis Ier, qui la désigne comme son héritière car il n'a pas de fils. Elle monte sur le trône vers 15 ou 16 ans. Mais comme, selon la législation royale, elle doit régner avec un époux à ses côtés, elle épouse son demi-frère Thoutmôsis II, fils illégitime que son père a eu avec une épouse secondaire, on pourrait dire une concubine. C'est elle qui règne. Lorsque Thoutmôsis II, son mari, décède très jeune, c'est le fils que celui-ci a eu, non avec Hatshepsut, mais avec une épouse secondaire, qui accède au trône encore enfant. Trop jeune pour gouverner, donc Hatshepsut, légitimement, assuma donc la régence et continua de régner sur l'Égypte, aidée par son fidèle conseiller Zénamout, grand architecte. Alors les Égyptiens reconnurent ses qualités et Thoutmôsis III fut provisoirement écarté du trône et c'est la raison pour laquelle les historiens la taxèrent d'horrible usurpatrice et de personne avide de gouverner. Voici d'ailleurs comment la présente le dictionnaire Larousse de la dernière édition 2023. Je lis « Hatshepsut, reine d'Égypte de la 18e dynastie, moins 1520-1484 avant Jésus-Christ, épouse de Thoutmôsis II, elle usurpa le pouvoir durant la minorité de son beau-fils Thoutmôsis III. » Temple funéraire à Deir el-Bahari. C'est tout ce que dit le dictionnaire. Alors Hatshepsut ne veut pas se contenter d'être une régente. Elle veut transformer son état en celui de souveraine d'une co-régence avec le jeune roi dont elle respecte les intérêts. Elle décide donc de prendre elle-même le titre de roi de la Haute et Basse Égypte. Innovation extraordinaire, bien sûr. Pour justifier cette décision, c'est-à-dire légitimer son accession au trône, elle répandit la légende de sa naissance divine. Elle serait née de la fécondation de sa mère, Amès, par le dieu Amon-Ré, lui-même en personne, venu à Amès sous les traits de son époux, le roi Thoutmôsis Ier. Entre parenthèses, la fécondation d'une humaine par un dieu est un thème dans les religions. Il faut savoir que tout l'édifice social de l'ancienne Égypte repose sur le roi. Le roi est un Horus, ce nom qui est donné au roi d'Égypte dès l'origine. Il commandait sur terre, comme le dieu Horus le faisait au ciel. Pour faire admettre au peuple ce caractère divin du roi, des actes symboliques étaient nécessaires. Le couronnement est un de ces actes. Et voilà pourquoi Hatshepsut a voulu se faire couronner. Dans le temple du dieu Amon, Hatshepsut reçoit du grand prêtre les 9 coiffes et couronnes pharaoniques jusque-là portées uniquement par des hommes. Elle va jusqu'à se faire représenter pourvue de la barbe postiche, symbole fort des pharaons. Pacifique, mais tout en veillant cependant à la sécurité de son pays, Hatshepsut plaça son règne sous le signe de la paix, préférant développer le commerce plutôt que les conquêtes militaires, ce qui la différencie de ses prédécesseurs et de ses successeurs. La prospérité s'installa en Égypte. La glorieuse et fantastique expédition commerciale, scientifique et pacifique au pays de Punt, P-O-U-N-T, fut un moment fort de son règne. Le pays de Punt, c'est l'actuel nord du Soudan, très loin au sud de l'Égypte. Depuis sa jeunesse, Hatshepsut rêvait de ce pays dont on disait que c'était la terre du dieu, parce qu'il produisait des merveilles, des arbres dont on tirait la myrrhe. La myrrhe, c'est une gomme résine odorante. La cannelle, les baies de genièvre, l'encens, la résine de térébinthe, du bois d'ébène, de l'or et de l'électrum. L'électrum, un mélange d'or et d'argent. On ramenait de ce pays aussi des animaux sauvages, girafes, éléphants, rhinocéros, panthères et aussi des bovidés. Parti de Karnak, près de Thèbes, la capitale d'alors, la grande capitale religieuse, l'expédition composée de 5 grands vaisseaux devait passer par eau et par terre, par eau le Nil bien sûr, et par terre, subir à l'aller et au retour le passage de 5 cataractes du Nil, pour arriver jusqu'à la 6e et se défendre d'éventuelles agressions. Cette expédition, qui fut une réussite grandiose sous tous ses aspects, est gravée sur une allée du temple funéraire. Hatshepsut a mené également une politique architecturale très importante. Elle veut laisser de nombreux souvenirs de son règne, mais son but est aussi d'embellir l'Égypte tout entière. Elle fit faire de nombreux travaux de restauration d'anciens monuments détruits par les envahisseurs, les Hyksos. Le temple de Karnak est agrandi, magnifié par l'ajout d'obélisques dorés à la gloire d'Amon. En Moyenne-Égypte, elle fit creuser un sanctuaire consacré à Pachet, la déesse lionne à laquelle elle s'identifiait. À Éléphantine, Éléphantine c'est l'actuel Assouan, elle fit édifier 2 obélisques et un temple en l'honneur du dieu Khnoum. Mais l'art de l'Égypte ancienne est essentiellement funéraire. Aussi, la plus magnifique des réalisations voulues par Hatshepsut est un temple funéraire de Der el-Bahari, D-E-I-R, plus loin L, plus loin B-A-H-A-R-I, que les Égyptiens appelaient le sublime des sublimes ou la merveille des merveilles. Ce temple immense est creusé directement dans la roche et repose sur 3 terrasses monumentales naturelles. Dans une salle est gravé le mythe de la naissance divine d'Hatshepsut. Et comme on l'a dit, l'expédition de Punt est gravée aussi dans ce temple. Alors Hatshepsut meurt dans les années -1458-1457, vers l'âge de 50 ans. Elle a régné environ 35 ans. Thoutmosis III l'a fait enterrer dignement dans le caveau qu'elle avait fait préparer dans la vallée des rois, la nécropole à Thèbes, Thèbes Ouest. Mais par la suite, elle a été rayée de l'histoire par ses successeurs et par nos historiens. Un certain temps après sa mort, on a détruit systématiquement ses effigies, ses statues, ses noms et des textes relatifs aux événements officiels concernant sa personne royale. On a attaqué violemment le temple funéraire en faisant marteler le nom et l'image d'Hatshepsut. On a essayé de l'effacer de notre mémoire. D'après les historiens, le responsable serait son beau-fils, qui lui a succédé, Thoutmosis III, pour se venger de lui avoir usurpé le trône. Il n'aurait pas accepté que la succession des rois, Thoutmosis le premier et le deuxième, ait été interrompue par une femme. Il fallait effacer les témoignages de cette intrusion et de ce parcours atypique d'une femme au sein de la dynastie des rois d'Égypte. Son règne disparaît alors des chroniques officielles. Pendant environ 3300 ans, Hatshepsut n'existe plus. Comme on l'a vu en introduction, c'est Jean-François Champollion qui la redécouvre et replace dans l'histoire, la fille d'Amon, première reine pharaon. Mais même lorsque l'on s'intéresse un tant soit peu à la civilisation de l'Égypte ancienne, on ne connaît pas ou presque pas Hatshepsut. Théologienne novatrice, reine énigmatique, longtemps considérée par les historiens comme une marâtre, une horrible usurpatrice ayant réduit au silence le roi en titre, Hatshepsut a fait de son règne un règne reconnu aujourd'hui comme un des plus marquants de la 18e dynastie des pharaons égyptiens. Selon la grande égyptologue de renommée internationale Christiane Desroches Noblecourt, j'ouvre les guillemets, de nouveaux documents exhumés permettent aujourd'hui de ne plus accabler la grande Hatshepsut de toutes les forfaitures. Certains archéologues déclarent toujours cependant que, sans un homme à ses côtés, une femme seule n'aurait pas été capable de mener à bien le règne brillant qu'il leur paraît pourtant difficile de contester. des analyses plus objectives permettent de considérer l'action d'Hatshepsut comme parfaitement digne et positive. Il fallait demeurer aveugle pour nier l'évidence, conclut Christiane Desroches-Noblecour. Hatshepsut fut une femme de devoir, respectueuse de ses engagements envers son pays et des intérêts de son neveu, dont elle fit le grand Thoutmôsis III. Son temple, qui fut attaqué, modifié, pillé, blessé par ses successeurs et les civilisations suivantes, fut sans aucun doute, dit toujours Christiane Desroches-Noblecour, fut sans aucun doute la joie et la fierté de la plus mystérieuse, émouvante et remarquable figure royale de l'Égypte pharaonique. Son intelligence subtile, son esprit créateur, son courage, son indomptable volonté au service d'une action politique et culturelle brillante font d'Hatshepsut définitivement une femme exceptionnelle, incontournable de notre patrimoine universel.
Eh bien, quelle femme!
Oui, une femme extraordinaire et qu'il faut sortir de l'ombre.
On ne peut pas la comparer à Cléopâtre.
Non, on connaît Cléopâtre et on ne connaît pas Hatshepsut. Aucune comparaison possible, parce qu'il ne s'agit pas de la même période ni de la même civilisation. Sous Cléopâtre, la septième et la dernière du nom, donc 30 ans avant Jésus-Christ, l'Égypte n'est plus qu'une province du monde hellénistique, grec et macédonien, d'abord, puis du monde romain, et cela depuis déjà 330 ans avant Jésus-Christ, des millénaires avant Hatshepsut. Hatshepsut était une Égyptienne de Thèbes, la capitale de l'ancienne Égypte, grande métropole religieuse. Cléopâtre, elle, descendait des généraux macédoniens d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, conquérant qui fonda en Égypte la ville d'Alexandrie et imposa la civilisation grecque. Or, cette civilisation se différencie de celle de l'Égypte ancienne parce que, pour elle, le divin est toujours traduit à l'échelle humaine. Dans la civilisation grecque, c'est l'intelligence humaine qui prime. Tandis que l'Égypte ancienne, au contraire, a essayé de ramener le plus possible l'humain à l'échelle divine. Toute son activité a été tendue vers une quête inlassable de l'éternité, comme nous l'a montré l'action d'Hatshepsut. Voilà pourquoi il n'y a pas de comparaison possible.
Vous nous avez cité les sources ?
Alors les sources, c'est essentiellement deux livres. Donc celui dont j'ai parlé, La Reine Mystérieuse, Hatshepsut, de Christiane Desroches-Noblecour, édition Pygmalion, Gérard Watelet, 2022. Et La Civilisation de l'Égypte pharaonique, de François Doma, collection Les Grandes Civilisations, édition Artaud, 1976. Et le dictionnaire Larousse, la dernière édition. Et je peux ajouter que, pour aller plus loin, on peut lire le livre de Christiane Desroches-Noblecour consacré à cette reine, un livre qui ressuscite littéralement cette reine, injustement diffamée par des historiens misogynes, et qui nous montre une héroïne au contraire lumineuse en reconstituant minutieusement sa vie et son œuvre.
Merci Jacqueline.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.